Bonjour, donc
Bonjour.
nous recevons Dominique Maison pour un roman situé dans le tumulte des années 30, à cheval entre la France et l'Espagne, Drapeau noir qui suit Pierre, qui se rêve auteur et qui va gravir des échelons dans le but d'obtenir une certaine notoriété et qui va connaître la passion, l'amour envers Nina, une jeune anarchiste. J'ai bien résumé le début.
Oui, c'est le pitch initial. Oui, après, leur parcours va les emmener un peu plus loin que ça, mais effectivement, au départ, on a bien un Rastignac qui veut réussir sa vie, même s'il est plus sympathique que Rastignac.
Alors, il est plus sympathique que Rastignac et moins aigri que Bellamy. On a un personnage qui est encore naïf, un petit peu brut.
Oui, c'est un jeune provincial qui débarque à Paris. Il a 20 ans, il rêve d'édition. Il a aussi un passif familial malgré tout. Il est un peu il se sent en dette vis-à-vis de son père, qu'il n'a pas eu le temps d'aimer puisque son père est mort quand il était très jeune. Son père a été fusillé pendant
les
tribunaux d'exception pendant la Première Guerre mondiale pour insubordination. Et Pierre rêve d'écrire un roman pour le réhabiliter. Donc il est quand même porté par
il a un idéal,
le
déjà.
Poids de la famille. Il a un idéal.
Alors, le roman commence en avril 1934, juste après les grandes émeutes qu'il y a eu en février, la tentative de prise de pouvoir de l'extrême droite. Mais on va aller jusqu'en 1937, jusqu'à la guerre d'Espagne. Pourquoi avoir choisi cette période charnière de l'histoire ?
La guerre d'Espagne est fascinante et incroyablement romanesque. Et j'avais envie de me pencher sur l'histoire du mouvement anarchiste. Alors il y a plusieurs périodes. En France, à la limite, la période d'or du mouvement anarchiste, c'est plus la fin du 19e
oui,
siècle.
Avec la bande à Bonneau,
début 20e, début Bonneau. La bande à Bonneau, les lois scélérates, les attentats, Sadi Carnot, etc., etc. Par contre, la guerre d'Espagne, au niveau de l'histoire du mouvement anarchiste mondial, je pense que c'est une forme d'apogée. Finalement, après, il se passera plus grand-chose de cette ampleur sur le mouvement. Qu'est-ce qui se passe en Catalogne en 1936,
avec
où il y a une véritable révolte.
Avec les reportages photos de Robert Capa et de sa compagne, avec Ernest Hemingway.
Avec Ernest Hemingway, avec Errol Flynn, avec plein de gens.
Alors, on a un cadre historique qui est très bien documenté de votre part, parce qu'il y a vraiment, on sent, hein, il y a des sigles, il y a des organisations qui sont bien décrites. Donc il y a votre désir de proposer quelque chose. Alors peut-être pas forcément, je sais pas si un historien va se mettre à hurler en disant qu'il y a des petits détails qui ne fonctionnent pas, mais on est néanmoins dans un monde qui est plausible, qui est probable, même s'il y a des petits clins d'œil, notamment au groupe Trust avec une chanson lors d'un bal populaire. Mais il y a un désir de vous de proposer un univers qui est cohérent par rapport dans lequel évoluent les personnages.
La vraisemblance, c'est essentiel quand on écrit, même quand on écrit de la science-fiction. Donc il faut être que la personne adhère au projet qu'on est en train de lui proposer. Donc quand on écrit sur des faits historiques, il faut qu'ils soient suffisamment respectés pour qu'on ne fasse pas descendre le lecteur en cours de route du roman. Donc oui, je me documente énormément. Il y a énormément de choses parfaitement exactes, mais il y a aussi une place pour le roman. Dieu merci, je ne suis pas historien, je suis romancier.
Et heureusement, Jules Verne disait mes romans ne sont pas fantastiques, ils ne sont que romanesque. L'objectif, c'est quand même que l'histoire que vous racontez prime sur le cadre, en fait.
Après, je prends énormément de plaisir à la documentation et j'espère la faire partager. Et sur l'histoire du mouvement anarchiste, il y a beaucoup de choses de réelles que j'avais envie de partager avec le lecteur. Donc tout ça est parfaitement documenté et exact. Mais les personnages sont complètement romanesques et leur histoire ne s'inscrit dans aucune forme d'histoire.
Alors parlons d'un petit personnage, je m'en excuse par ailleurs, Ernest Hemingway, qui est à l'intérieur du livre, bien entendu, c'est un personnage phare de cette guerre d'Espagne. On sent du Ernest Hemingway le personnage, mais aussi dans votre plume, en fait, dans la façon que vous avez de présenter le personnage pour qui sonne le glas. Mais vous n'avez pas vécu, contrairement à Hemingway, cette période, je ne le pense pas.
Vous portez un petit peu trop jeune.
Vous portez bien.
Merci.
Vous portez bien votre centenaire. Mais comment est-ce que, vous parlez de documentation, comment est-ce qu'on sélectionne les archives, comment est-ce qu'on sélectionne les sources que l'on va utiliser?
Alors, moi, je fonctionne, ma base de départ, c'est Gallica. Que j'adore et que je recommande à tout le monde. Gallica, c'est absolument extraordinaire. Vous avez tous les journaux français jusqu'aux années 60 qui sont numérisés intégralement. Donc quand on écrit sur une période, et ben je lis la presse. Voilà, quand je dis que je suis en avril 1934, et ben je commence par lire la presse d'avril 1934, toute la presse, au fur et à mesure. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre, on se dit, tiens, il parle de ça, je vais aller creuser là-dessus. Tiens, il parle de ça, il parle de telle personne, je vais aller creuser dessus. Puis au final, voilà. Bon. Après, il y a aussi une bibliographie. Hein. On va en librairie, on fouille le rayon guerre d'Espagne, le rayon anarchisme, on prend quelques références. qui nous amène vers d'autres livres aussi. Et on prend le temps. Il y a aussi de très bons documentaires. Il y a vraiment la matière sur la guerre d'Espagne et les mouvements anarchistes. Il y a vraiment de quoi faire.
Oui, c'est un milieu qui est si fermé ça. Et alors, vous partiez avec quelque chose qui était déjà dans votre tête quand vous avez commencé. Vous dites, tiens, je vais faire sur la guerre d'Espagne et donc l'extrême droite française et l'extrême gauche de cette époque-là. Puisqu'on parle des croix de feu, on parle de tout ça. Mais vous avez appris des choses, et votre roman, est-ce qu'il a un petit peu été modifié par la découverte plus précise de ce cadre ?
Ah oui, évidemment, j'ai appris énormément de choses, et oui, on s'adapte, je me documente avant, mais je me documente au fur et à mesure, donc l'histoire peut évoluer. J'entends ça dire souvent que pour moi, l'écriture, c'est un peu comme du jazz, où il y a une part d'improvisation, où on retombe sur le thème, mais on peut s'en éloigner beaucoup, donc voilà. J'ai une direction générale, je savais même pas comment il allait se terminer, honnêtement, celui-là. Des fois, je le sais, il n'y a pas de règle. Des fois, j'ai une idée très précise de la fin de mon livre, là, c'était pas le cas du tout. J'ai laissé les personnages...
Ils ont été un peu maîtres de leur destin.
Un petit peu, ouais. On se met, on s'investit beaucoup émotionnellement dans ces personnages et dans leur histoire. C'est une histoire d'amour en plus. Donc voilà, ça touche à l'intimité. J'y ai mis de moi, j'y ai mis de ce que j'ai vécu, et j'ai essayé, voilà, de les accompagner, mais de les laisser effectivement de suivre leur chemin.
Ouais. Et vous, vous prenez de sympathie pour des personnages qui sont un petit peu vos enfants, c'est aussi le terme.
J'ai des chouchous. Bah, c'est Errol Flynn qu'on trouve dans plusieurs de mes bouquins. J'adore ce personnage parce que c'est un acteur pas si extraordinaire que ça, mais par contre c'était un aventurier extraordinaire qui a été trafiquant d'esclaves, qui a été chercheur d'or,
qui est une sorte de Rimbaud,
voilà,
mais
qui a fait quelques films brillantissimes, hein, voilà, mais qui a sombré dans la drogue et qui est finalement mort très jeune à 50 ans. Mais quel personnage, Errol Flynn, un punk, un fou, un aventurier, un poète. Il collectionnait, il avait des Van Gogh et des Gauguin chez lui, voilà, pour vous donner un truc.
Des personnages jouant en couleur, comme on pourrait trouver peut-être Byron à l'époque romantique, des choses.
Ah oui. Alors il a pas le génie poétique
De Byron,
mais effectivement il a ça. Il part pour la guerre d'Espagne sur un coup de folie romanesque,
comme Byron partirait en Grèce, tout à fait.
Alors en se prenant un peu pour Hemingway aussi, en se disant qu'il va écrire des trucs sur la guerre d'Espagne, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Par contre il se saoule copieusement et régulièrement
avec Hemingway.
Ça, par contre, il l'oublie pas, mais voilà, le personnage, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, voilà. Il y a quelques autres, et j'ai des personnages, enfin, beaucoup de tendresse pour Nina, le personnage féminin principal de mon livre, la jeune anarchiste dont Pierre tombe amoureux.
On sent, parce qu'elle est habitée vraiment d'un idéal politique qui dépasse même la société. Elle a une vision du monde, elle a une vision du futur, alors que Pierre, lui, est plus axé sur le présent. Bon, sur Nina aussi, puisqu'il fait une fixette dessus, heureusement d'ailleurs.
Enfin, oui.
Et un petit peu sur le passé. Il vit beaucoup sur le passé. Elle vit presque dans le futur.
Ah bah, par contre, elle subit son passé. C'est-à-dire que si elle est aussi révoltée et aussi incapable de faire la moindre concession à notre monde et à son quotidien, c'est qu'elle a un passé particulièrement douloureux qui fait que Nina est complètement révoltée et ne s'intégrera jamais à la société et au monde contre lequel elle est en guerre permanente. Et c'est épuisant d'être en guerre contre le monde.
Et oui, c'est pour ça qu'elle veut un monde dans lequel, justement, elle ne serait plus épuisée. Et c'est pour ça qu'elle a des idéaux sur l'écologie. Enfin voilà, elle a des idées très avant-gardistes pour l'époque.
Ce qu'étaient les anarchistes, ce qui est passionnant quand on regarde ce mouvement, c'est que loin de la caricature qu'on en fait, les premiers écologistes, les premiers féministes, l'avortement, le véganisme, il y a des quantités incroyables de sujets qui, à l'époque, étaient des thèmes anarchistes, qui sont aujourd'hui devenus des thèmes beaucoup plus communément partagés. Mais ces sujets-là, dans ces années-là, comme mouvement politique qui s'en emparait et qui les défendait, le droit à l'avortement, je ne vous trouverai pas beaucoup d'autres partis qui y allaient, hein, sur ce sujet-là.
Alors, quand on demandait à Richard Matheson quels étaient ses projets, il répondait, j'écris un livre. Vous, Dominique Maison, est-ce que vous avez quelque chose sur le feu, ou vous laissez tout retomber ?
Alors, je réfléchis au prochain livre. Il est quand même beaucoup trop tôt pour en parler, mais oui, bien sûr.
Vous en parlerez quand
même. Mais on a toujours 10 projets dans un coin, et finalement, il y en a un qui finit par arriver vraiment. Mais il y en a un qui me travaille un peu en ce moment. Ça viendra.
Super. Merci, monsieur Maison. Donc, Drapeau noir aux éditions de La Martinière,